Bonjour, au micro Idrissa Seydoulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a promis hier de restaurer l'ordre dans une Amérique en proie à un déferlement de colère historique, menaçant de déployer l'armée pour faire cesser les violences. Hier, les débordements étaient en début de soirée globalement plus contenus que la nuit précédente, même si plusieurs grands magasins de la célèbre 5e avenue de New York ont été l'objet de pillages. Et ici à Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés sans violence dans la soirée pour violation du couvre-feu instauré à partir de 19h. Une semaine après l'homicide à Minneapolis de George Floyd, le noir de 46 ans, asphyxié par un policier blanc, New York, Los Angeles et des dizaines d'autres villes américaines ont renforcé leurs mesures sécuritaires, décrétant ou rallongeant un couvre-feu nocturne pour vider les rues où des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbé par la crise du Covid-19. Le président Trump a annoncé le déploiement de milliers de soldats lourdement armés et de policiers à Washington pour mettre un terme aux émeutes et aux pillages, en jugeant que les troubles de la veille dans la capitale fédérale étaient une honte, appelant les gouverneurs d'État à prendre les mesures nécessaires pour dominer les rues et dénonçant des actes de terrorisme intérieur, M. Trump a promis de restaurer l'ordre aux États-Unis pour régler rapidement le problème à leur place. Il utilise l'armée américaine contre les Américains et du gaz lacrymogène contre des manifestants pacifiques pour une opération de communication, a dénoncé sur Twitter Joe Biden, son adversaire démocrate à la présidentielle de novembre. M. Biden doit se rendre ce matin à Philadelphie pour s'exprimer sur les troubles civils. Il a dénoncé ce qu'il a qualifié de racisme institutionnel qui ronge les États-Unis, tout en appelant au calme et en condamnant les violences. Tandis que M. Trump s'exprimait dans les jardins de la Maison-Blanche, la police a usé de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants rassemblés à l'extérieur de l'enceinte. C'était pour libérer le champ vers l'église Saint-Joseph, bâtiment emblématique tout proche qui a été dégradé dimanche soir. Le président américain s'y est rendu à pied, entouré de membres de son cabinet pour s'y faire photographier une Bible en main. La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, a dénoncé une dispersion honteuse qui, selon le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, ne servait qu'à offrir au président une séance photo. Le coronavirus maintenant rien ne permet d'affirmer qu'il soit devenu moins pathogène, a prévenu lundi l'OMS, après les propos d'un célèbre médecin italien affirmant que le virus perdait de sa virulence. Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dit vouloir continuer à travailler avec les États-Unis, malgré l'annonce la semaine dernière par le président Donald Trump qu'il rompait les liens entre son pays et l'agence sanitaire de l'ONU. Le couvre-feu instauré au Burkina Faso mi-mars pour lutter contre la propagation du coronavirus va être levé mercredi, selon un décret présidentiel lu lundi soir à la télévision publique. On compte dans le pays 53 décès pour 883 cas. En Côte d'Ivoire, le collectif des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts, a exprimé lundi son opposition énergique au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo au pays après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale. Dans l'est de la République démocratique du Congo et selon des sources locales hier, au moins 4 personnes ont perdu la vie dans le village de Mikende lors d'une nouvelle tuerie attribuée au groupe armé ADF aux confins du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon l'administrateur du territoire de Beni, 5 autres personnes ont également été tuées dans une autre incursion des ADF dans la nuit de dimanche à lundi. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations, retour sur les manifestations contre le racisme et les brutalités policières aux États-Unis. Des dizaines de villes ont connu des accès de colère une semaine après le meurtre d'un homme noir par un policier blanc à Minneapolis dans le Minnesota. Ici à Washington, la capitale fédérale, le couvre-feu est instauré après le chaos de ce week-end où des vitrines ont été fracassées et des poubelles incendiées. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle, de Chicago à Dallas, des centaines de milliers d'Américains ont manifesté contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la crise du Covid-19. Bagassi Koura a joint Abdoulaye Sy, d'origine mauritanienne, qui faisait partie de la foule dans les rues de Dallas au Texas.
La foule ici à Dallas, vraiment, je dirais, très engagée, parce que nous voyons pas seulement des individus, mais des familles, des hommes politiques. Il y a aussi des policiers qui sont là en train d'expliquer, qui ne sont pas aussi impliqués dans la généralité, dans ce qui se passe. Je crois que même on l'a vu aussi dans d'autres États, où les responsables policiers sont en train de faire des briefings, d'expliquer à la population le rôle que doit jouer aujourd'hui le policier, une fois qu'il est devant une situation. Que ce genre de feu s'embrase au niveau de toute l'Amérique.
Est-ce qu'il y a eu des casses à Dallas comme on a vu ailleurs?
Non, dans le secteur où j'ai vu, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Les manifestations ont été très encadrées. Il y a eu ce contact direct entre les populations, je dirais du côté même religieux, les churches, les mosquées et tout le monde, et avec la police. Et il y a eu un échange, c'était plus en contact, c'était plus aussi pour montrer que les manifestations ne doivent pas être aussi une casse que ce que nous condamnons tout ça. Ce que nous condamnons. Parce que casser, ça enlève la légitimité de la marche. Mais aussi, ça enlève la légitimité de la justice qu'on demande pour Floyd. Mm-hmm. On n'est pas là pour casser. On est là pour faire entendre des voix. On est là pour permettre à ce qu'il y ait justice, mais aussi qu'on puisse arrêter ce meurtre qu'on voit chaque jour.
Abdoulaye Sy, d'origine mauritanienne, habitant à Dallas, au Texas. Le gouvernement nigérian a annoncé hier la réouverture des églises et des mosquées dès aujourd'hui, dans le cadre de l'allègement des restrictions pour stopper la propagation du coronavirus. Le pays le plus peuplé d'Afrique a recensé hier un peu plus de 10 000 cas, dont 287 décès. Ekia Badou.
Les rassemblements religieux sont autorisés à condition de respecter des mesures comme le port du masque et la distanciation sociale, a précisé Boss Mustapha, patron du comité présidentiel de lutte contre le coronavirus, lors d'un point presse à Abuja. Le gouvernement appelle à la prudence et a prévenu que le pic d'infection n'est pas encore atteint. Le couvre-feu nocturne est allégé de 22h à 4h du matin, tandis que les écoles, restaurants, bars, cinémas et boîtes de nuit restent fermés. Les vols intérieurs pourront reprendre à partir du 21 juin, a par ailleurs annoncé le gouvernement, sans toutefois donner d'informations sur une éventuelle reprise des vols internationaux. Les autorités ont également décidé de lever le confinement total encore en vigueur à Kano, la grande ville commerçante du Nord et l'un des principaux foyers de l'épidémie. Le premier producteur de pétrole du continent, très affecté par la crise sanitaire et la chute des prix du baril, pourrait entrer en récession avant la fin de l'année.
Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto s'est adressé hier à ses compatriotes. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, qui continue de se présenter comme le président élu du pays, a dénoncé ce qu'il a appelé la volonté du régime de Paul Biya d'organiser une succession truquée au sommet de l'État. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
L'opposant Maurice Kamto durcit le ton. Dans une allocution de 9 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a laissé entendre que des manœuvres sont en cours pour la succession de l'actuel président Paul Biya, 87 ans, au pouvoir depuis 38 ans. Une succession de gré à gré, comme il l'appelle, et à laquelle il entend s'opposer fermement.
Nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Nous nous dresserons contre toute manipulation, même constitutionnelle, qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir.
Il pose au moins deux conditions avant la tenue de toute nouvelle élection.
Je réitère avec gravité faute d'une résolution politique de la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et sans une réforme consensuelle du système électoral, l'annonce de l'organisation d'une élection au Cameroun sonnera comme une déclaration de guerre.
Depuis l'élection présidentielle de 2018, où il s'était autoproclamé vainqueur, Maurice Kamto a engagé un bras de fer avec le pouvoir. Il a été arrêté en janvier 2019 avec près d'une centaine de partisans et a été libéré 9 mois plus tard. La sortie de Maurice Kamto survient dans un contexte marqué par de folles rumeurs sur l'état de santé du président Paul Biya.
La Minute Écho est diabolique.
Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé la semaine dernière à Abidjan un projet d'urgence en faveur des pays à faible revenu, membres de la CEDEAO, pour le renforcement des systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger en réponse à la pandémie de Covid-19. La BAD met à la disposition de ces pays 22,4 millions de dollars américains, dont 9,55 millions de dollars pour leur permettre de faire des tests de dépistage, acquérir des aspirateurs et matériel de protection individuelle. L'Organisation de l'aviation civile internationale ne préconise pas de neutraliser un siège sur deux pour assurer la distanciation physique, un système dénoncé par l'industrie qui y voit une menace à sa rentabilité. L'organisation demande toutefois que les voyageurs soient aussi éloignés les uns des autres que possible en fonction du taux d'occupation de l'avion. Elle préconise également que la nourriture à bord soit pré-emballée et que l'avion soit désinfecté régulièrement. L'OACI estime que la pandémie de coronavirus pourrait réduire de 1,5 milliard le nombre de passagers d'ici la fin de l'année. La SAA, propriété de l'État sud-africain, est clouée au sol après près d'une décennie de pertes financières. Mais le plan de sauvetage élaboré par les administrations et rendu public par le parti d'opposition de l'Alliance démocratique lundi a indiqué que le gouvernement avait accepté de financer la restructuration. Le dernier projet daté du 31 mai indiquait qu'une injection de fonds de roulement d'au moins 2 milliards de rentes était nécessaire pour la restructuration, plus de 2 milliards de rentes supplémentaires pour financer les licenciements et une allocation d'au moins 600 millions de rentes pour rembourser certains créanciers.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les stars du sport dénoncent la mort d'un homme noir lors de son interpellation à Minneapolis, ici aux États-Unis. L'ancienne superstar de la NBA, Michael Jordan, a dénoncé le racisme enraciné aux États-Unis, se disant profondément attristé, véritablement en souffrance et totalement en colère. Nous en avons assez, a poursuivi Michael Jordan. Le joueur de Boston Celtic, Jaylen Brown, a conduit 15 heures pour participer à une manifestation à Atlanta. Selon Roger Goodell, dirigeant au sein de la Ligue nord-américaine de football, les rassemblements violents, je cite, « reflètent la souffrance, la colère et la frustration que tant d'entre nous ressentons ». La joueuse de tennis Serena Williams a posté une vidéo sur Instagram d'une jeune fille submergée par l'émotion s'adressant à une réunion publique. Je cite, « nous sommes des Noirs et nous ne devrions pas avoir à nous sentir comme ça ». Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a lui dénoncé le silence des plus grandes stars de la Formule 1, je cite, « dominé par les Blancs ».« Je sais qui vous êtes et je vous vois », a déclaré Lewis Hamilton. Trois joueurs noirs de la Bundesliga ont aussi rendu hommage ce week-end sur les terrains allemands à Floyd. L'attaquant de Mönchengladbach, Marcus Thuram, a mis un genou à terre pour célébrer un but. Le Marocain de Dortmund, Achraf Hakimi, et son coéquipier Jadon Sancho, buteurs ce week-end, ont affiché un t-shirt portant l'inscription « Justice for George Floyd ». En Angleterre, le prêt à Manchester United d'Odion Ighalo, sous contrat avec l'équipe chinoise de Shanghai chinois, a été prolongé jusqu'à fin janvier 2021. Prêté cet hiver, l'attaquant nigérian devait normalement retourner fin mai en Chine, alors que le championnat d'Angleterre doit reprendre le 17 juin, le Super Eagle a inscrit 4 buts lors des 3 matchs qu'il a débutés entre le 27 février et le 12 mars avec les Red Devils. Sur le continent, au Mali, les joueurs du Djoliba Athletic Club de Bamako ont repris les entraînements après plus de 2 mois d'arrêt à cause de la maladie à coronavirus.
Le
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, après 2 ans, la maladie d'Ebola réapparaît dans la province de l'Équateur, dans l'Ouest. Le pays fait actuellement face à 2 épidémies d'Ebola, puisqu'une autre sévit dans l'Est depuis plus de 2 ans et a déjà fait plus de 2280 morts. Eddie Isango a joint à Mandaka Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo.
Il y a eu 5 cas, donc 5 décès. Parmi ces décès, il y avait des gens qui saignaient déjà du sang. Alors, en ce moment, le chef de division avait pris des échantillons. Ils étaient allés vérifier dans notre laboratoire sur place ici et les résultats étaient sortis positifs. Il avait envoyé encore à Kinshasa, à l'INRB, et l'INRB vient de nous confirmer que les résultats étaient positifs. Donc, il y a Ebola dans la ville de Mbandaka.
Il y a 2 ans, il y avait encore une autre épidémie là-bas, mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui la réapparition de cette maladie? Est-ce que les gens n'ont pas continué à observer les mesures de précaution?
Nous sommes dans une grande forêt équatoriale, vous connaissez. L'Équateur est entouré de la forêt. Comme il y a beaucoup de chauves-souris et la vie des gens, là, tu connais la vie des gens, tout le monde n'est pas au travail. Il y a beaucoup de chômeurs, nous avons beaucoup de châtaignes. Alors, c'est le cas. Quand ils sont allés à la forêt faire la chasse, et ils ont trouvé des gibiers. C'est ça le problème. Les chauves-souris, comme il y a beaucoup de chauves-souris, que les gens mangent, c'est grâce à Mandaka. C'est ça la cause.
Est-ce que cela veut dire que la sensibilisation avait baissé d'un cran ou comment? Est-ce que vous avez poursuivi la sensibilisation pour que les gens se préviennent?
Oui, on avait fait la sensibilisation. Après notre Ebola, l'Ebola était parti à Beni. Là-bas, à Beni, ils ont fait plus d'une année. Vous voyez, les gens ont oublié. Tous nos idées étaient par l'Ebola de Beni. Et pour cette année, c'est le Covid-19. Tout le monde est sensibilisé pour le Covid-19. Alors, ils avaient négligé les problèmes d'Ebola. Là, les chauves-souris, les animaux qui sont en train de mourir à la forêt, comme nous avons un grand forêt, c'est ça le problème. Et avec une autre forêt, on ne bénéficie rien.
Il y a 2 ans, il y avait les matériels de santé et autres qui avaient été amenés là-bas. Est-ce que cela vous suffit aujourd'hui pour combattre c'est l'épidémie qui réapparaît?
Je ne pense pas plus que les autres matériels qui étaient restés. La Croix-Rouge, les organismes internationaux qui étaient venus, ils avaient envoyé ça à Beni. Ils avaient pris tout le matériel, les vêtements, tout ça, ils ont envoyé à Beni. Pour le moment, nous n'avons rien. Donc la situation vraiment est terrible ici.
Et maintenant qu'une nouvelle épidémie a été confirmée, qu'est-ce qui a été décidé entre vous et le gouvernement central?
Bon, pour le moment, on avait informé au gouvernement central depuis hier les résultats de l'INRB. Maintenant, on part à la réunion avec tout le monde de la santé et notre coordination. Comme ça, on va voir ce qu'on va conclure avec eux.
Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. RDC toujours, la ville de Bukavu est isolée du reste de la province du Sud Kivu pendant 15 jours et des couvre-feux et bouclages sont en vigueur de 20h à 5h pour enrayer la propagation du coronavirus. Une décision du gouverneur Théo Nguabidje, au vu de la pression de cette pandémie qui est passée en quelques jours de 4 cas à 16, puis 28 avec 4 décès et 4 guéris. Première journée de confinement et d'isolement de la commune d'Ibanda, une des 3 communes de Bukavu, 240 contacts des cas confirmés positifs à la COVID-19 ont reçu la visite des équipes de suivi des contacts et investigation des alertes. L'essentiel des activités commerciales, administratives, paralysées, mais on déplore l'interpellation d'un journaliste dans l'exercice de son travail à Panzi, où une partie de la population n'a pas accepté de rester à la maison. De Bukavu, notre correspondant Ernest Muhero.
Les habitants du centre-ville de Bukavu ont observé lundi la mesure portant isolement de la commune d'Ibanda dans les cadres des 15 jours de confinement de la ville décrétée par le gouverneur de la province du Sud Kivu. À première vue, les rues sont désertes, les magasins, boutiques et marchés fermés, les transports en commun et les autres activités commerciales ou administratives suspendues. La police veille sur les récalcitrants. Mais si tout se passe comme annoncé au centre-ville, dans les quartiers populaires de Ponzi, le constat n'est pas le même. Les activités commerciales, certes, sont suspendus, mais une frange de la population n'est pas restée à domicile. Justin Bahiroué, juriste et défenseur des droits de l'homme.
Dans les quartiers résidentiels et administratifs, la population a suivi. Mais Ponzi et Sens, la population a mis de la résistance. La police a dû négocier, mais je pense qu'au bout du compte, lorsqu'il n'y a pas eu de solution appropriée, la police a dû recourir à des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. On a vu aussi une vidéo qui a circulé où la police a bousculé un passant au niveau du marché de Nyawera. Et les informations à notre possession renseignent que le général de la police venait de donner des instructions pour qu'on puisse arrêter les policiers qui sont à la base.
Selon des sources de la division provinciale de la santé au Sud Kivu, ce confinement a permis à l'équipe de riposte COVID-19 d'organiser la visite de 240 personnes considérées comme ayant eu un contact direct avec l'un ou l'autre cas confirmé positif au nouveau coronavirus. Au marché de Nyawera, où une équipe procède à la contamination, nous rencontrons le ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, qui confirme le déploiement des équipes de riposte.
Une équipe qui est chargée du suivi des contacts, investigation des alertes, qui aussi à pied d'œuvre. Ils sont dans les ménages, ils sont éparpillés conformément aux adresses que nous avons eues. Certains sont partis dans le foyer, dans le famille, qui a connu les cas confirmés. On est entré pour l'instant des contaminés.
Dans plusieurs endroits de la commune isolée, la présence policière était très observée et de temps en temps renforcée par des éléments des forces armées de la République pour les contrôles si les personnes en circulation avaient l'autorisation. Dans les chapitres des débordements, on note l'interpellation à Ponzi du journaliste Joseph Manegabé de la radio Sven. Joseph Manegabé.
Je suis en train de faire le reportage circulé pour voir si les mesures prises par les autorités ont été respectées. Mais là, ce que je déplore, j'ai été vraiment interpellé par les éléments de l'ordre au niveau de l'essence. J'ai été retenu à peine une heure. Je n'ai pas pu même faire le reportage. Ils m'ont ravi le téléphone, 10 000 francs, et puis après, ils m'ont relâché. Et je ne suis pas content de ce qu'ils ont fait. La liberté de la presse n'est pas respectée. Vraiment, nous demandons encore une fois les autorités de mettre un accent sur la liberté de la presse en province du Sud Kivu.
Signalons que dans la décision des autorités politiques du Sud Kivu, la ville de Bukavu est isolée du reste de la province pendant 15 jours, suivie des couvre-feux et bouclage de 20h à 5h du matin. La commune d'Iban va connaître cet isolement pendant 3 jours pour espérer réduire la vitesse de propagation du nouveau coronavirus. À Bukavu, on a enregistré le 4e décès et une 20aine de cas confirmés. Ernest Mouero, Bukavu, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au moins 50 morts dans 3 attaques en 48 heures au Burkina Faso et une 20aine de blessés. Le nord, l'est et le centre-nord sont les régions les plus touchées. Le pays qui est confronté au coronavirus avec 53 morts doit aussi faire face aux attaques terroristes. Les populations, elles, pensent que c'est le moment de s'unir pour faire face à l'insécurité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Un week-end sanglant comme on n'a jamais vu cette année. Vendredi soir, un convoi de commerçants de retour du marché de Titao pour Solé dans la région du Nord est tombé dans une embuscade. Le bilan provisoire fait état de 15 morts, de blessés, des personnes portées disparues et d'importantes pertes matérielles, selon le gouvernement qui attribue l'attaque aux groupes armés terroristes. Samedi, le marché de bétail de Compiègne-Biga dans l'Est est attaqué par un groupe terroriste avec comme bilan provisoire 25 morts et plusieurs blessés selon toujours le gouvernement.
Une zone où des gens sont arrivés en tenue militaire burkinabé, avec les mêmes montures, avec pratiquement les mêmes armes, et ont encerclé le marché et ont commencé à fusiller.
Daouda Diallo, qui est porte-parole du CISC, collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, a des précisions de cette attaque.
Fusiller tout le monde, sans distinction d'âge, sans distinction de sexe. Aujourd'hui, on est plus que jamais interpellé. Parce qu'on ne doit plus se fier à l'apparence, l'habit ne fait pas le moine. Il faut désormais bannir la stigmatisation, bannir le déni de faciès
Ce même samedi, dans le centre-nord, un convoi humanitaire est pris pour cible. Là, on parle de 10 morts, soit 5 civils et 5 gendarmes, une vingtaine de blessés et des personnes portées disparues, selon le gouvernement. Si les attaques se multiplient de cette ampleur, les populations restent optimistes que le pays s'en sortira.
Ça n'a pas commencé sur le Burkina. Et il y a eu des pays qui ont subi plus que ce qui se passe au Burkina. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien là-bas comme attaque. Je suis sûr que le gouvernement burkinabé, un jour, va vaincre cette guerre.
Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ou de critiquer, ou de parler mal aux autorités. Moi, je crois que c'est le moment de s'unir, ensemble de soutenir nos FDS.
Les analystes pensent qu'il y a une réelle impasse dans la lutte antiterroriste au Burkina. Abdoul Karim Saïdou, politologue à l'université Ouagadougou.
Nous avons affaire à une violence qui est entretenue par des acteurs extérieurs, mais aussi qui est soutenue de façon tacite par des acteurs de Burkinabés, donc qui font partie des communautés locales et qui ont des difficultés pour accéder à un certain nombre de ressources naturelles telles que par exemple pratiquer la chasse, l'orpaillage, etc. Et donc qui sont en conflit depuis des années avec les pouvoirs publics, avec l'État. Donc ces attaques qu'on enregistre montrent que la dimension politique, économique et culturelle, communautaire, toutes ces dimensions du conflit, de la violence n'ont pas été suffisamment intégrés dans la riposte gouvernementale qui est principalement militaire.
Les gouvernements, lui, continuent de rassurer à chaque occasion que quelque chose est fait pour lutter contre le terrorisme dans le pays et que les résultats seront bientôt visibles. Depuis 2016, le Burkina Faso est confronté à de nombreuses attaques terroristes qui ont fait plusieurs centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Cameroun, les élèves des classes d'examen et les étudiants ont renoué avec les cours ce lundi après 2 mois d'interruption à cause du Covid-19. Un retour à l'école qui s'accommode désormais de nouvelles habitudes pour limiter la propagation du coronavirus qui connaît déjà une évolution inquiétante. La rentrée au troisième trimestre à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Dans les rues, malgré la pluie, les élèves sont sur le chemin de l'école. Dans les établissements scolaires, comme ici au collège bilingue Yondo, le respect des mesures barrières est strict. Lavage des mains, port du masque, prise de température au thermoflash et distanciation sociale dans les salles de classe. Josephine Ambombo est élève en terminale A4 espagnol au collège Yondo.
Je suis très heureuse de reprendre les cours, de revoir mes camarades, malgré le fait que nous soyons très distants et que nous n'avons plus l'occasion de nous saluer comme avant.
Mais certains élèves, comme Stéphane Dicoy, lui aussi en terminale, ont dû braver la peur pour revenir à l'école. Il se dit néanmoins rassuré au vu des mesures qu'il a trouvées dans son établissement scolaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
C'est mon initiative parce qu'ils prennent soin des élèves, ils nous protègent contre la pandémie du coronavirus. J'ai eu beaucoup peur, très peur même. Mais en suivant les conseils des parents et des amis, surtout que le diplôme, ça m'aide à travailler demain.
La maladie du Covid-19 est une réalité. Les gens en meurent, effectivement.
Le principal du collège bilingue Yondo fait le tour des salles de classe pour rappeler les mesures barrières. Sur 52 élèves attendus dans les 2 classes de terminale, seul un manque à l'appel. Au cours de ce 3e trimestre, la durée des cours va passer de 8 à 7 heures pour tous les élèves des classes d'examen. Apollinaire Ngoumou, principal du collège bilingue Yondo.
Les parents ont répondu favorablement à notre appel parce que nous avons joué au téléphone ou dans les forats pour leur dire « N'ayez pas peur, nous avons pris les dispositions pour que vos enfants soient en sécurité ici. » Ils ont compris et ils ont envoyé leurs enfants ce matin. Malgré la pluie, ils sont là, ils sont nombreux.
Les élèves de cours moyen 2e année, au cycle primaire, subissent quant à eux un changement sur leur pause qui se fera désormais en salle. Le suivi pédagogique va connaître un coup d'accélérateur ici avant l'examen de concours d'entrée en 6e et celui du certificat d'études primaires. Selon le ministère de la Santé publique, le Cameroun enregistre en l'espace de 2 mois plus de 6000 cas positifs au Covid-19 avec moins de 200 décès. L'ambassade de France a décidé de ne pas rouvrir ce jour les écoles à programme français au Cameroun. Emmanuel Jumta pour VOA Afrique, Yaoundé.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edressa Sevilla et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.